Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Toujours un plaisir de vous retrouver pour une autre émission de Peu contenir des infos et toujours un plaisir renouvelé également de retrouver Sébastien Boucher qui est là. Salut Sébastien.
Bonjour Simon.
T'as passé une bonne semaine?
Très belle semaine, toi aussi?
Oui, ça a été une semaine, somme toute, assez occupée, mais c'est ce qui nous garde en vie à quelque part, hein, travailler puis...
Être occupé, ben oui.
Être occupé, c'est ça. Sinon, ben la sédentarité, c'est ça qui entraîne bien souvent... les problèmes de santé mentale, puis les problèmes de physique et tout ça. Fait que quand on se garde occupé, on dit qu'on est en vie, comme on dit.
Oui, oui, mais trop, ça amène au burn-out. Donc, il faut faire un juste milieu, hein, comme
ben
dans
voilà.
Tout.
Et voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'il faut un juste milieu, comme dans n'importe quoi. Hein. Tu sais, à un moment donné, il faut savoir doser. Mais en revanche, côté sujet, cette semaine, on a de bons, de très bons sujets. Et on n'y va pas de main morte, parce qu'on va parler d'affaires toutes plus intéressantes les unes que les autres. Tantôt, dans le deuxième bloc, tu vas nous parler de quoi?
Le deuxième bloc. Bonne colle.
Non, je pense que tu voulais nous parler des façons de penser. Je pense qu'ils changent avec l'âge, c'est ça?
Oui, parce qu'en vieillissant, vraiment, nos comportements changent, nos façons de penser aussi concernant toutes sortes de choses. Puis je suis tombé sur un article dans un magazine qui décrit toutes sortes de comportements qui, en effet, changent vraiment avec l'âge. Ça serait intéressant de faire un parcours.
D'ici la fin de l'émission, moi, je veux vous parler de la mer Méditerranée. Ben, tu connais la mer Méditerranée, évidemment.
Oui.
On a découvert, on s'est aperçu il n'y a pas tellement longtemps de ça, que la raison pour laquelle elle est aussi salée, c'est pour une raison un peu particulière qui s'est passée il y a à peu près 5,5 millions d'années. Puis je vais vous expliquer pourquoi la mer Méditerranée, elle est aussi salée qu'elle l'est. Plus loin dans l'émission, on va aborder également, si je me trompe pas, les porte-bonheur, je pense, c'est ça, hein?
Ben oui, toutes sortes de porte-bonheur qui existent. On va faire le tour un peu de l'histoire des porte-bonheur, pourquoi pas? On fait de la recherche dans ce sens-là.
Et on aura l'occasion également de parler d'ici la fin de l'émission des jeux de société.
Ah oui, puis plus particulièrement des jeux de table. On va parler des jeux de société en général, mais tu sais, les fameux board games, moi j'adore, là. Je suis un grand, grand fan depuis que je suis jeune. Puis je voulais qu'on fasse le tour parce que ça existe non seulement depuis longtemps, mais on parlera aussi de nos jeux de société préférés.
Oui, absolument. Et pour commencer, tu veux nous parler, si je me trompe pas, des quoi, tes placebos, hein, c'est ça?
Oui, et l'effet placebo. Ben oui, parce que c'est tellement utilisé ça depuis longtemps, puis on sait pas toujours exactement de quoi il s'agit, puis est-ce que c'est légal d'en vendre des placebos, tout ça. Donc, je voulais faire le tour aujourd'hui. Un placebo, en fait, ce que c'est qu'un, c'est comme un médicament, mais il n'y a aucun principe actif. Donc,
c'est ça.
Ça sert à rien. Comme par exemple, ça peut être une gélule avec du sucre en poudre dedans. Une injection, souvent on faisait ça, les injections de solution saline, tout simplement. Ou un composé qui pourrait être, un comprimé qui pourrait être composé seulement de talc. Autant dire qu'il n'y aurait rien dedans. Donc, c'est vraiment un médicament pour faire penser qu'on a pris un médicament. Placebo vient d'un mot latin, soit dit en passant, et c'est un verbe conjugué au futur qui veut dire « je plairai, je vais faire plaisir ». Et comme par exemple, si on prend le mot « lavabo », ça veut dire « je laverai au futur ».
OK. Okay.
Et oui, placebo, c'est « je ferai plaisir ».
Alors, placebo, je ferai plaisir au corps humain à quelque part. Hein. C'est un peu bluffer le corps humain, l'effet placebo. C'est ça un petit peu, hein?
Ben oui, peut-être bluffer le corps humain, oui, mais de faire plaisir, on verra pourquoi la définition a changé comme ça.
OK.
Nocebo, est-ce que tu l'as déjà entendu?
Jamais entendu parler de ça, non. Nocebo, non.
Ben, c'est pour nuire, faire du mal.
OK.
Nocebo. Puis, 1785, dictionnaire médical en Angleterre, c'est là que ça avait apparu, premièrement, le mot placebo. Premier test d'efficacité, ben, ça a été, sais-tu, c'est quand qu'on a fait le premier test, le grand test? C'est un événement assez historique, là, donc... Tu irais par hasard, puis je pense que tu tomberais dessus.
Ah non, j'aurais de la misère à le dire. Non, je serais pas capable.
On a testé ça à la Deuxième Guerre mondiale.
Ah, OK, OK.
Ouais, ouais. Pour la première fois, les placebos, Henry Becher, qui est un médecin américain, opérait les combattants blessés au front. Puis pour éviter un choc cardiaque pendant l'opération, on donne de la morphine.
Oui.
Et le ravitaillement n'arrivait plus. Alors, il a donné de l'eau salée, puis il a opéré quand même. Puis les soldats se sont calmés et ils ont agi comme s'ils étaient sous la morphine. C'est là qu'on a fait « Ah, attends une minute, ça a l'air de fonctionner cette affaire-là, donc ça pourrait servir. » Il y a Dr. Patrick Lemoine qui a écrit « Les mystères du placebo », un livre qui est sorti en 1996. Moi, je me suis fié un peu sur ce livre-là aujourd'hui pour trouver toutes sortes d'informations. Et où ça a été le plus étudié, les placebos, c'est dans la lutte pour la douleur. C'est là qu'on l'a plus étudié. Les médecins n'ont pas le droit de mentir, hein. Par contre, ça, c'est important de le noter. On peut pas donner un placebo. C'est interdit depuis des décennies là, de pas le dire à un patient puis de donner un placebo en échange. Donc, même si on parle de placebo aujourd'hui, puis on va parler de plusieurs applications, attendez-vous pas à recevoir ça au lieu d'un vrai médicament, c'est illégal.
Ah oui, je pensais pas ça. Je pensais qu'on donnait un placebo à quelqu'un. On disait, tiens, je vais te donner une pilule, ferme ta gueule, entre guillemets, excusez, là. Mais arrête de te plaindre, arrête de chialer, on va te donner une pilule. Puis que la personne n'était pas nécessairement au courant que c'était pas une véritable pilule et qu'à ce moment-là, son corps, dans une certaine mesure, ou son subconscient, je sais pas trop, réagissait à l'effet de cette fausse pilule-là qu'on lui avait fourguée. Mais là, tu es en train de me dire qu'on n'a pas le droit de faire ça.
Non, on s'est même rendu compte, je vais t'en parler un petit peu plus tard si on a le temps, on s'est même rendu compte que ça fonctionne autant même si on le sait qu'on a pris un placebo.
Ah,
c'est spécial.
Hein?
Ben ouais. Et puis dans le cas du Parkinson, il y avait le traitement L-DOPA, des placebos, on s'est rendu compte qu'il y avait une action directe sur le cerveau, puis on le voit en imagerie médicale, ça allume la même zone du cerveau que quand on faisait le traitement L-DOPA. Donc le cerveau était forcé à fabriquer son médicament intérieur quand on prenait le placebo. Assez spécial. Et puis, on a même fait des chirurgies placebo. Attention, là, plus le traitement est invasif, en plus on dit que l'effet placebo est important. Donc, il y avait des Italiens qui avaient fait une étude de la sous-clavière voleuse. Un cas d'angine de poitrine et risque d'infarctus, on sélectionnait une artère mammaire interne, puis au-dessus, il y avait une circulation qui allait irriguer le cœur. Et dans le monde entier, on s'est mis à faire ça. Puis, il y a une équipe allemande et américaine qui a vérifié ce truc-là. On a endormi des patients et on a tiré au sort, pile ou face, qui allait avoir une vraie opération et qui allait avoir une fausse, donc une cicatrice superficielle. On faisait une fausse cicatrice, on réveillait. Puis, au bout de 6 mois, aucune différence clinique. Le seul patient amélioré au niveau de l'électrocardiogramme, il avait eu l'opération placebo. Puis, c'est seul que ça s'était amélioré. Donc, on s'est rendu compte que ça pouvait être très, très efficace. Et on pourrait plus faire ça aujourd'hui, par contre, pour... Bon, il y a des comités d'éthique là, et de méthodologie. Maintenant, on pourrait pas le faire sans le dire, comme on l'avait fait dans les années. Mais on a sauvé des vies, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes pendant ces chirurgies-là, chirurgies qu'on a évitées, dans certains cas, à ceux qu'on a donné un placebo, et on n'a même pas fait la chirurgie, donc quand même. Mais quand on donne un médicament à quelqu'un, on se dit, pour que ça fonctionne, est-ce que la couleur du médicament, selon toi, aurait un impact?
Moi, j'ai comme l'impression que oui, il doit y avoir 2-3 couleurs, peut-être donner une pilule bleue, pilule rouge, je sais pas trop.
Mais qui fonctionne, il y a des couleurs qui fonctionnent mieux que d'autres, en effet. Comme un médicament pour l'anxiété, on s'est rendu compte que la meilleure couleur pour un placebo, celui qui fonctionne le plus, c'est de le mettre rose.
Ah, OK.
Le médicament est rose, fonctionne bien pour l'anxiété.
Voir la vie en rose. Quand tu te fais de l'anxiété, tu donnes une pilule rose, voir la vie en rose. c'est peut-être ça, je sais pas.
Exactement ça, ça veut sûrement. Et puis en deuxième position, je sais pas si tu veux tenter un essai, trouver la deuxième couleur pour l'anxiété qui fonctionnait le mieux.
Pilule verte ou jaune?
Oui, c'est vert. Ouais, tu l'as eu du premier coup. Bon. En deuxième position, après le rose, c'est le vert qui fonctionnait mieux. Ensuite, ça fonctionne un peu moins bien. Mais placebo fonctionne quand même toujours. Et les noms des médicaments, là, on s'est creusé les méninges pour trouver des noms qui évoquaient la guérison. Tu sais, comme par exemple, Seresta, un médicament qui s'appelle Seresta pour la sérénité. Le Glaucosta, parce qu'il stabilise le glaucome. L'Effexor, pour rendre plus efficace, c'est un antidépresseur. On l'a appelé Effexor. T'sais, on veut que le nom aussi donne du torque.
Ben, ça joue sur le subconscient, ça joue sur le psychologique de la personne. Dit, je vais prendre une pilule pour mieux être, pour être plus paisible, pour être moins d'anxiété. Ça fait qu'avec un nom comme ça, ça me donne confiance. Hein? T'sais, c'est jouer dans le psyché des gens, hein, c'est ça?
Oui. Prozac, c'est pour l'action. Okay. Prozac. Et ça fonctionne dans les dépressions sévères hospitalisées où les gens veulent en finir. Pour les dépressions communes en médecine générale, chez 85% des patients, il n'y a pas de différence entre ceux qui ont pris le placebo et ceux qui ne l'ont pas pris. Donc, dans des vraiment là, des petites dépressions, comme on voit, là, ça change rien. On prendrait un placebo ou un autre médicament, non. Mais c'est sûr que dans des cas plus graves, là, parfois, ça prend de la vraie médication, là, c'est certain. Et le prix, plus le prix est élevé, Pour un médicament?
Plus efficace. Ça fonctionne.
Oui.
Ben c'est clair.
Ça donne l'impression au monde. C'est quand même spécial. Et puis, la nouveauté, hein, les nouveaux médicaments marchent bien pendant 7 à 10 ans. Puis ensuite, ça s'use. T'sais, on y croit de moins en moins. Et tout le monde est sensible à l'effet placebo. Tu te rappelles quand on parlait de l'hypnose encore? Je reviens souvent avec cet exemple-là, mais on disait que tout le monde est sensible à l'hypnose.
Ouais.
Ben l'effet placebo aussi, tout le monde est sensible à ça. Et puis, un médecin, ça induit aussi la confiance en le patient. Si le médecin a l'air d'avoir confiance en la pilule qu'il te donne, ça marche. C'est, on a confiance en les médecins, puis on peut s'y fier à quelque part. La personnalité, par contre, ça joue aucun rôle, ni l'intelligence. C'est pas selon les personnalités que ça va plus fonctionner un placebo ou non, ni l'intelligence. Puis la maladie mentale, ça joue un petit peu. Un tout petit peu, parce que les gens en bonne santé mentale sont plus sensibles au placebo.
OK.
Tu sais, dans le fond, ouais. Puis, ils sont davantage capables de se confier, de faire confiance, là, les gens qui sont, mettons, sains d'esprit, là, complètement sains d'esprit.
Oui, oui.
Et puis là, c'est pour ça que ça fonctionne bien. On fait confiance, tandis que des gens qui ont certaines petites maladies mentales ont plus de la misère. Le placebo fonctionne moins bien, on y fait moins confiance. Et si on dit au patient qu'on... Là, j'en viens à ce que je te dis au début. Si on dit à quelqu'un qui a pris un placebo, ça fonctionne aussi bien que si on y dit pas.
Ça m'étonne vraiment. J'avais cette présomption, j'avais cette impression que parce qu'on dit à quelqu'un, on vient de te fourguer une pilule de farine ou une pilule de sucre, ça allait annuler ou amenuiser un peu les effets. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est que même en le sachant, assez spécial, ça, franchement, là, ça m'étonne vraiment.
Oui, 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 puis c'est prouvé. On s'est rendu compte que vraiment, l'effet placebo fonctionne autant lorsqu'on le sait. Et en 2003, il y a l'OPAC qui a commercialisé un rose pour réveiller et bleu pour endormir, des placebos.
OK. Ouais,
puis c'est la première fois que ça avait été commercialisé, des placebos. Ben ça a pas fait long feu.
OK. Ah non, hein?
En plus, on dit que c'est un placebo.
Ben fait, ouais, c'est écrit, ça doit être placebo. Ben oui, je vais payer 50$ pour des pilules de sucre. Tu sais, c'est que je vais me prendre une cuillère à thé de sucre chez nous. Tu sais, c'est comme...
C'est certain. Hey, mais les effets secondaires du placebo et de la toxicomanie, là, si on regarde, c'est le même sevrage. C'est à peu près pareil. Donc, tu vois, on voit que vraiment le cerveau fonctionne. Quand on prend un placebo, ça fait que notre cerveau fabrique, comme par exemple, de la cortisone, dans certains cas. Quand on arrête, ben on arrête de prendre le placebo, le cerveau arrête d'en fabriquer parce qu'on n'a plus l'élément qui le fait. Donc, on tombe en sevrage. Les mêmes symptômes de sevrage. Donc, ben, ça fait le tour un peu, mais c'est ça, les placebos, utilisés dans beaucoup de cas, ça fonctionne. On sait maintenant pourquoi ça fonctionne, pour ceux qui ne le savaient pas. Mais oui, ça joue vraiment sur le cerveau, très puissant, un cerveau humain.
En clair, une pilule rose à 50$ la pilule, tout à fait placebo, peut fonctionner pour l'anxiété mieux que la pilule que vous allez chercher chez le pharmacien à 2$ ou 3$ la pilule. C'est presque
ça. Ça se pourrait. Puis si on la paye 100$, elle va marcher encore mieux.
Elle va marcher encore mieux. OK, bon, on s'arrête pour une courte pause. La première de l'émission, on revient dans un instant. Vous écoutez Peu contenir des infos. Restez avec nous autres.
Peut contenir des infos.
Je sais pas pour vous autres, mais moi, qui suis, et là, je vais peut-être faire une grande divulgation, qui suis maintenant quinquagénaire, je ne pense pas à l'âge où j'en suis rendu dans ma vie de la même façon que je pensais quand j'avais, on va dire, 25 ou 30 ans. Et là, ce que tu vas nous dire, Sébastien, c'est que tu vas confirmer à quelque part mes présomptions, c'est que les façons dont on pense, ça change à quelque part avec l'âge.
Oui, vraiment. Oui, puis ce qui m'a mis la puce à l'oreille de faire plus de recherches, c'est un article. Je suis tombé sur un article dans le magazine lafamille.life.
OK.
Ça parlait justement d'à quel point, en vieillissant, on change complètement nos façons de penser, nos goûts, nos préférences. Souvent, on apprend à se concentrer davantage sur nous-mêmes. Ça, c'est une des choses. Donner la priorité à des choses différentes aussi. Donc, vraiment, on va regarder des points précis dans lesquels on sait que ça change pour pas mal tout le monde.
C'est ça que j'allais dire, c'est que les valeurs qu'on embrasse à l'âge de 20-25 ans, par exemple, et celles qu'on embrasse ou auxquelles on adhère quand on est rendu à 50-60 ans, sont forcément pas les mêmes avec l'expérience qu'on acquiert dans la vie, le travail, la famille et tout ça. Et c'est ce que tu vas nous dire, là, en quelque sorte.
Oui, bien, je vais te parler de choses auxquelles les adultes apprennent à se désintéresser avec l'âge, des choses que ça nous intéresse moins, puis d'autres qui apprennent à apprécier, tu sais, plus on vieillit. Donc, des choses qu'on apprend à se désintéresser, là, suivre les dernières tendances de la mode, une première. Ça, là, c'est très jeune. C'est très jeune, suivre les dernières tendances de la mode. Plus on vieillit, moins on s'y intéresse. Et l'époque où on achetait là toutes sortes de magazines de mode pour tenter de suivre les dernières tendances, c'est pas mal révolu. Je te dirais, on n'est plus là. On dirait qu'on est passé à autre chose comme société. Mais autrefois, on privilégiait la mode au détriment du confort. Hein. Et c'est le contraire qui se produit avec l'âge. Avec l'âge, vraiment, on va y aller avec ce qui est le plus confortable au lieu que ça paraisse bien ou que ça soit à la mode.
C'est vrai que quand on regarde certaines photos d'époque, on voit les femmes, entre autres, qui étaient habillées avec des corsets ultra serrés parce que c'était à la mode, oui. Parce que c'était l'époque, puis au détriment, effectivement, comme tu disais, du confort.
Ouais,
et peut-être même, j'irais jusqu'à dire, de la santé, parce que de se faire compresser comme ça le torse, l'abdomen, puis la cage thoracique, ça n'a pas été gros char, là, tu sais.
Ah non, c'était des warriors. Non, mais pour vrai, c'était des guerrières.
Ouais.
Mais oui, bon, une autre chose, là, qu'on fait plus avec l'âge trop, ou dans beaucoup de cas, impressionner. Tu sais, tenter tout le temps d'impressionner les gens, ça aussi, c'est genoux. En fait, on est tous passés par là, par contre, là, qui n'a pas essayé d'impressionner la galerie? Mais vouloir faire bonne impression, ben c'est pour que les gens nous apprécient, donc c'est un peu normal. Mais les jeunes ont vraiment tendance à vouloir s'intégrer. Et puis, en vieillissant, ben c'est surtout, on se contente plus des personnes qu'on a déjà dans notre vie. On tente pas tant que ça d'impressionner la galerie puis les nouveaux gens puis se faire des nouveaux amis. On dirait qu'on vit avec ce qu'on a puis on est heureux avec ça en vieillissant.
Il y en a quand même rendus à 70 ans qui aiment ça faire du name dropping puis essayer d'impressionner quand même la galerie, mais ça c'est un autre game, c'est ça.
Ils sont en minorité à ce que je peux lire dans le magazine.
Ouais, heureusement.
La famille.
Ouais,
c'est ça. Hey, être trop gentil, Simon. Le fait de toujours essayer d'être en bon terme avec les autres. Et ça peut faire plus de mal que de bien, là, par contre, des fois. Mais même si on a peur de dire non, ben ça a l'air qu'avec l'âge puis l'expérience, on apprend à dire non aux choses qu'on veut pas faire ou que ça nous tente pas. Et on fait passer nos propres besoins et nos propres désirs en premier, souvent en vieillissant. Ben c'est toujours selon là, ce que j'ai lu, mais ça me semble logique et assez pertinent.
Question d'affirmation aussi, hein, c'est ça, je veux dire. On apprend à s'affirmer et tout ça. Ben.
Exact, puis on sait on est qui, puis... Popularité, ben là, ça c'est sûr. Tous les enfants ont rêvé d'être souvent le plus populaire de l'école, hein, ou bon, le garçon ou fille. Mais à l'âge adulte, il y en a beaucoup qui se rendent compte que les chiffres, ça n'a pas d'importance, que c'est pas parce que plus de gens qui nous connaissent qu'on se sent moins seul, en fait. Ce qui compte, c'est plutôt être entouré de personnes qui s'intéressent vraiment à nous. Puis on développe ça avec l'âge, hein. On arrête de tenter d'être trop populaire. Du côté de l'argent, ben, ça, la relation avec l'argent, ça change aussi. Toi, est-ce que tu as la même relation, Simon, quand tu étais jeune avec l'argent?
Non, pas tant. Ben, en même temps, j'aime bien assurer le confort, mais pas nécessairement le mien comme le confort de mes enfants qui vont me suivre, tu comprends? À l'époque où j'avais 20-25 ans, t'as un job, l'argent te brûle les doigts, t'aimes ça flamber, t'aimes ça flasher. Rendu à un certain âge, en tout cas à l'âge où j'en suis rendu, on essaye de piler un petit peu. Tu sais, on se fait un petit coussin pour les vieux jours, on essaye d'en mettre de côté un petit peu pour les enfants, mais c'est clair que notre rapport à l'argent, là, c'est pas la même affaire, là, pantoute. Là.
Ouais, puis là, tu vas vieillir encore. Puis la prochaine étape, tu vas retomber à vouloir dépenser puis profiter de ton argent.
C'est ça. Quand tu arrives à la retraite, à un moment donné, tu veux t'acheter de gros Winnebago, puis tu veux aller dans le sud, puis tu veux ci, puis tu veux ça. Là.
Oui. On dit que les jeunes, ils auraient tendance à se concentrer sur l'épargne. Les adultes comprennent l'importance de se faire plaisir plus, puis de transformer leur richesse en expérience, par contre. Hein.
OK.
Qui est le plus riche, hein? Quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou quelqu'un qui a beaucoup d'expérience? C'est une bonne question. Parce que l'expérience, c'est vraiment... Et ça peut se traduire même en argent, parfois.
Ah, c'est clair. C'est clair, avoir de l'expérience. Si tu deviens consultant, par exemple, ça peut être drôlement payant, là. Oh, 150-200 piastres de l'heure comme consultant, là, l'expérience paye.
Exact. Puis toi, Simon, est-ce que tu sors le vendredi? Est-ce que pour toi, c'est normal sortir le vendredi soir?
Sais-tu, ça a fait son temps, puis c'est fini.
Ça a fait son temps, ça aussi.
C'est ça, hein? Exact.
Ben, c'est ça que je me disais. Puis tu sais, avant, là, être coincé à la maison le vendredi soir, ça signifiait qu'on n'était pas cool. Il fallait faire de quoi le vendredi soir? Mais la plupart des adultes veulent se détendre. Fin de la semaine, là, on arrive, on veut se détendre. Le vendredi soir, souvent, il y en a qui ne veillent pas. Puis même moi, je suis rendu là aussi. Hein, j'ai mon 45, là. On dirait que ça commence à rentrer. Je suis plus un gros sorteux, puis je change mes habitudes vraiment. Alors, je m'en rends compte. Mon rapport avec l'argent aussi a vraiment changé.
Bien, remarque que ça a fait son temps. Moi, à l'époque où j'étais justement dans la vingtaine, je travaillais dans les discothèques, les bars et tout ça. Fait que jeudi, vendredi, samedi soir, non seulement je sortais, mais j'étais obligé de sortir parce que j'animais, par exemple, dans une discothèque de 9h, 10h le soir jusqu'à 2h30, 3h du matin. Fait que t'es contraint à quelque part d'aller travailler, mais en même temps, tu sais... c'est comme joindre un peu l'utile à l'agréable, on va dire, là, tu sais.
Oh oui, puis je l'ai fait moi aussi, je te comprends tout à fait. Là. Être DJ, hein, c'est-tu merveilleux pareil?
Ben, c'est une belle job, pas pire job.
Une belle job, ça arrive bien. Hey, mais essayez des nouvelles choses. La plupart des gens deviennent moins aventureux avec l'âge, puis je m'en rends compte avec, mon père, puis les gens dans la famille plus âgée. On essaye moins, on est moins aventureux. Et les rides, les cheveux gris, hein, apprendre à les accepter, ben ça, en vieillissant, ça devient pas mal plus simple. Hein. C'est vraiment quand on est jeune, qu'on a nos premiers cheveux gris, ou on perd nos cheveux, tout ça, là, on s'en fait. Mais avec l'âge, on se rend compte, ça devient tout à fait normal, on accepte la nouvelle apparence, tout ça passe. Au bout du compte, on réalise que c'est toujours notre corps, il est toujours beau, même si les années sont écoulées. L'intimité, maintenant, pour beaucoup de couples, plus la relation est ancienne, moins l'intimité est importante. En couple, c'est important de s'aimer, c'est sûr, de se montrer, de se montrer qu'on s'aime, de faire des efforts. On commence à accorder moins d'importance, par contre, aux besoins physiques. Et c'est parce qu'avec l'âge, la présence de l'autre est ce qui compte le plus, on va dire. Ouais.
C'est à force de se côtoyer, on n'a pas nécessairement besoin de s'en faire la démonstration. Quand on est tous les deux assis à table pour le souper, assis sur le divan, regarder la télévision, on se couche dans le même lit, tout ça, on n'a pas forcément besoin, comme à un âge un petit peu plus jeune, de se faire des mamours, des câlins pour se prouver qu'on est important l'un pour l'autre, en quelque sorte. Là.
C'est mignon, par contre, les couples qu'ils font encore après 20-30 ans de mariage. C'est très mignon.
C'est clair, mais c'est que je comprends effectivement la raison pour laquelle on a peut-être un peu moins besoin dans certains cas de faire ce genre de choses-là ou de démonstration. Ouais.
Ben, t'as sûrement raison. Et est-ce que c'est important pour toi avoir toujours raison?
C'est non, pas vraiment, non.
Non, mais ça aussi avec l'âge.
J'aime ça.
Ça, avec l'âge, ça change aussi. C'est presque amusant même de le voir à quel point on a tous tendance à être têtu quand on est jeune, puis on veut avoir raison. Rien semble plus important qu'avoir le dernier mot souvent pour des jeunes dans des disputes, mais avec le temps, vraiment, on apprend à écouter. On apprend à laisser les autres penser ce qu'ils veulent, pas nécessairement avoir raison. Et beaucoup d'adultes qui changent leur comportement pour écouter vraiment plus ceux qu'ils aiment. Et je me suis fait dire, moi aussi, que j'écoutais beaucoup plus que quand j'étais jeune. J'étais un petit difficile à suivre, moi, quand j'étais jeune. Je parlais plus que les autres. J'avais toujours mon mot à dire. J'écoutais moins les gens. Je me suis fait dire ça, mais au moins, il y a eu une amélioration. Donc, je suis prêt à t'en parler aujourd'hui. Et si on a un petit peu de temps, je parlerai de ce qu'on apprend à apprécier avec l'âge, le petit segment de la fin. Ben, on apprécie d'être en bonne santé. Vraiment.
Ça, c'est clair.
Puis là, ça, moi, je l'ai vécu là dans les dernières années, des gros problèmes de santé. Je m'en suis sorti. C'est incroyable comment j'apprécie les moments maintenant. Puis c'est souvent sûrement à cause qu'on a eu l'expérience dans la vie hein, d'avoir des problèmes de santé qui nuisaient à notre confort, notre bonheur. Donc, on l'apprécie en vieillissant, être en bonne santé. Et les adultes qui apprennent à apprécier le fait d'avoir un corps en bonne santé, on se rend compte que c'est vraiment une richesse. Puis on l'entend. La vraie richesse, c'est la santé, on l'a entendu souvent.
Ça joue sur le psychologique aussi, quand tu es en bonne santé, tu l'apprécies, puis il me semble que tu souris davantage à la vie. Là,
tout à fait. Puis avoir des amis proches, comme par exemple, quand on est jeune, on a des amis proches, mais on prend ça un peu pour acquis. Mais plus on vieillit, plus on l'apprécie d'avoir des amis proches, et chaque ami devient très, très important. Pas parce qu'on en a moins nécessairement, mais parce qu'on se rend compte de la valeur que ça a. Et si vous avez encore un groupe d'amis proches, c'est quelque chose de spécial. Il faut s'accrocher à ça. C'est vraiment, ça a vraiment beaucoup de valeur. Et trop de jeunes s'en rendent pas assez compte à quel point leurs amis sont importants. Nous, les parents, souvent, ou les adultes, on va les regarder, on le voit. Ils devraient être donc se donner plus d'importance puis se rendre compte comment sont importants. Donc, tenez pas pour acquis les personnes qui ont choisi de rester dans votre vie. Et puis, la présence de nos parents, bien ça, plus on vieillit, bien sûr, plus on l'apprécie. Les moments de calme qu'on apprécie de plus en plus en vieillissant, ça nous permet de reprendre notre souffle. C'est quelque chose qu'on apprécie. Être proche de sa famille, vivre une vie confortable. Et même si vous avez rêvé de vivre dans un manoir, par exemple, un jour, ou d'être super riche, on réalise que le vrai confort, en fait, là, c'est de mettre la nourriture sur la table, dormir dans un lit la nuit, tout ça, en vieillissant, ça devient tout à fait clair. Être avec quelqu'un qu'on aime, bien sûr, on le souhaite, puis on l'apprécie quand on vieillit, qu'il y a quelqu'un qu'on aime qui est proche de nous. Et avoir la liberté de faire ses propres choix. En vieillissant, on est souvent frappé par des vagues de nostalgie, puis en y repensant, on se rend compte que tous les choix qu'on a faits nous ont conduits à où ce qu'on est aujourd'hui. Alors, le fait qu'on a eu la liberté de prendre ces décisions-là, c'est quelque chose qu'on apprécie et qu'on est reconnaissant en vieillissant. Et puis, nos erreurs, c'est en vieillissant qu'on finit par les apprécier. On arrête de s'en faire et de culpabiliser. Là, on comprend que c'est des leçons Et ça va devenir souvent les leçons les plus importantes de toute notre vie, celles qu'on a fait avec des échecs. Alors, tout cela, ça change en vieillissant. Hein, ben...
Ouais. Alors, merci Sébastien. Vous saurez dorénavant pourquoi vous étiez peut-être aussi têtu et pourquoi vous l'êtes beaucoup moins en vieillissant, puis que vous apprenez à vous tempérer dans une certaine mesure.
Oui.
Voilà qui complète notre deuxième bloc. Dans un tout petit instant, moi, je vous parle très, très rapidement de la raison pour laquelle la mer Méditerranée est aussi salée qu'elle l'est. C'est un phénomène qui s'est produit il y a grosso modo 5,5 millions d'années. Et toi, tu vas nous parler des porte-bonheur, c'est vrai?
Oui, les porte-bonheur. Vous en avez peut-être chez vous. On va parler des principaux porte-bonheur, les plus populaires.
On marque un temps d'arrêt, puis on vient dans un instant. C'est peu contenir des infos. Merci d'être branché.
Avertissement.
Cette émission peut contenir des infos.
Dans un instant, avec Sébastien, on va parler des porte-bonheurs, enfin ceux qui sont les plus populaires. Mais moi, auparavant, je veux vous expliquer la raison pour laquelle la très connue mer Méditerranée, que tu connais, Sébastien,
oui,
absolument, elle a perdu 70 % de son eau. C'est quand même pas mal. Il y a 5,5 millions d'années et c'est peut-être, ou en fait, c'est la raison pour laquelle elle serait aussi salée. On apprend dans cette étude qui est parue il y a quelques jours que la mer Méditerranée aurait perdu pas moins de 70 % de son eau il y a 5,5 millions d'années. Et ce phénomène extraordinaire, on l'attribue à une période durant laquelle le détroit de Gibraltar s'est refermé. Vous savez que le détroit de Gibraltar, c'est une espèce de passage maritime qui est large d'à peine 14,4 kilomètres et qui sépare l'Europe du continent africain entre l'Espagne et le Maroc. Donc, c'est une espèce de bras de mer qui fait la jonction entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. C'est l'un des lieux les plus fréquentés des navires dans le monde. As-tu déjà vu des photos de navires qui passent par le détroit de Gibraltar?
Non, c'est, pas précisément. Non. Ou peut-être j'en ai vu, mais je savais pas que c'était le détroit de Gibraltar.
Et c'est quand même assez fréquenté, là. C'est un passage obligé quand on arrive, par exemple, de l'océan Atlantique et qu'on veut desservir tous les pays du bassin méditerranéen. Donc, forcément, les bateaux passent par là. Il y en a des fois un, puis il y en a d'autres, là, tu sais, comme on dit. Alors, quand le détroit s'est refermé, il y a à peu près, comme on le disait tantôt, 5,5 millions d'années, les fleuves qui alimentent la mer Méditerranée en eau douce étaient pas assez nombreux pour compenser l'évaporation de l'eau de mer et la Méditerranée a connu une baisse importante de son niveau. Je l'ai dit tantôt, pas moins de 70 % de l'eau s'est évaporée. Ça a duré quand même quelques milliers d'années, là, on s'entend. Et ce qui est étonnant dans ce cours d'eau-là, dans la Méditerranée, c'est que les échanges d'eau qui s'effectuent entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique à travers le détroit de Gibraltar sont faits en couches. C'est-à-dire qu'en surface, on a l'eau de l'océan Atlantique qui entre dans la mer Méditerranée et quand on descend en profondeur, c'est tout à fait l'inverse qui se produit. L'eau de la Méditerranée, qui est plus salée, donc qui est plus lourde, va se jeter dans l'Atlantique. Et il y a une étude qui a été publiée dans Nature Communication, il y a pas tellement longtemps de ça, qui dit que si le passage du détroit de Gibraltar se trouvait aujourd'hui bloqué, comme ça a été le cas il y a 5,5 millions d'années, ben de la même façon, il y aurait probablement encore cette évaporation de l'eau de la mer Méditerranée qui la ferait baisser, j'espère que vous êtes bien assis, d'un demi-mètre par année. Puis je peux vous dire que de l'eau dans la mer Méditerranée, il y en a, et pas qu'à peu près. Et ça s'est passé, ce phénomène que je vous explique, entre 6 et 5,5 millions d'années à peu près avant notre ère. Le blocage du détroit, il s'est fait en raison du mouvement des plaques tectoniques. C'est que la mer Méditerranée, à cet endroit-là, le détroit de Gibraltar, est assis sur des plaques tectoniques entre le continent européen et le continent africain. Et il y a à peu près 5,5 millions d'années de ça à peu près, les plaques tectoniques se sont rencontrées les unes les autres et ça a créé une obstruction de l'eau qui n'a pas été capable de sortir de la mer Méditerranée et en sens inverse, l'eau de l'océan Atlantique n'a plus été capable d'entrer dans une certaine mesure, ce qui a créé une crise de salinité. On l'appelle la crise de salinité messinienne et ça a laissé des traces visibles. Les fonds de la Méditerranée, quand je vous disais la raison pour laquelle les eaux sont si salées que ça, as-tu une petite idée de l'épaisseur de la croûte de sel qu'il peut y avoir au fond de la mer Méditerranée?
Non, tu m'en poses une bonne, j'ai aucune idée. C'est gros.
C'est gros, tu dis? De 2 à 3 kilomètres d'épaisse.
OK, je pensais que tu allais dire mètre.
Non, non, non.
2 à 3 kilomètres de sel.
2 à 3 kilomètres d'épaisseur de sel dans le fond de la mer Méditerranée. Ça représente en superficie totale 1 million de kilomètres cubes de sel qu'on retrouve au fond de la mer Méditerranée. Là, vous allez me dire, 2 à 3 kilomètres, voyons. C'est bullshit. Ben, c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la mer Méditerranée, à certains endroits, elle a jusqu'à 5 km de profondeur. 5019 mètres à peu près là, dans, son, dans sa plus grande profondeur. Donc, on retrouve de 2 à 3 km de sel dans le fond de la mer Méditerranée. C'est pas tout à fait extraordinaire. L'analyse du chlore contenu dans ces sels-là a démontré qu'il y a effectivement eu cette espèce de vidage de la mer Méditerranée qui s'est déroulé d'abord en deux étapes. Il y a 35 000 ans, ou en fait, pas il y a 35 000 ans, mais il y a 5,5 millions d'années, ça a duré pendant 35 000 ans. Il y a cette espèce de phase de vidage qui s'est effectuée dans une première étape. Et dans une deuxième phase beaucoup plus courte, qui a duré à peu près 10 000 ans, là, ben ça s'est littéralement refermé. Et là, la mer Méditerranée a été séparée de l'Atlantique, ce qui a stoppé les échanges d'eau. Et c'est la raison pour laquelle elle est devenue aussi salée. Tellement, là, ça a tellement diminué que l'eau a diminué de 1,7 à 2,1 km dans sa partie orientale et d'environ 850 mètres dans sa partie occidentale. Donc, c'est vous dire à quel point l'eau s'est complètement vidée ou à peu près 70 % du volume d'eau a disparu. Et je conclurai en vous disant que il y a tellement eu de l'eau qui s'est évaporée dans la Méditerranée à cette époque-là qu'à certains endroits, il y a une espèce de pont terrestre qui s'était formé. Il y a des îles et il y a des parties tant du continent européen que du continent africain qui ont été en quelque sorte peuplées par des chèvres, des rongeurs, des lapins qui, si la mer Méditerranée s'était pas vidée de son eau de cette façon-là à cette époque-là, ça se serait pas produit comme phénomène de peuplement, entre guillemets. Alors maintenant, vous saurez pourquoi c'est si salé la mer Méditerranée. Ben, c'est parce qu'il y a un phénomène qui s'est produit il y a 6 millions à 5,5 millions d'années à peu près.
Quand même, quand même.
Tu veux nous parler des porte-bonheur en 7 minutes à peu près, mon ami?
Ben d'accord, des porte-bonheur. Si je te demandais, Simon, est-ce que un symbole de chance là, qui est très, très, très connu, ça doit te venir en tête. Qu'est-ce qui représente la chance?
Trèfle à quatre feuilles, je veux dire.
Ben oui, absolument. C'est sûr. Ça, il est trop facile. Hein? Mais un trèfle à quatre feuilles, c'est un porte-bonheur hein, dans beaucoup de cas. Puis ça, c'est une mutation, le trèfle à quatre feuilles. Mutation qui arrive très rarement. C'est une fois sur 10 000. Hein? Un trèfle à sa quatrième feuille, 1 sur 10 000 trèfles.
Fait qu'il faut être chanceux pour tomber sur un trèfle à quatre feuilles, c'est ce que tu nous dis.
Ben, c'est ça qu'on nous dit. Moi, c'est ça qu'on m'a dit quand j'étais petit. J'en ai trouvé, par contre, ça m'est arrivé. Mais la légende, il y a une légende qui dit qu'elle veut que ce soit Ève qui aurait trouvé la toute première espèce de trèfle à quatre feuilles dans le jardin d'Éden.
Hein? Oh,
la légende.
Hein?
Puis, on l'aurait utilisé pour des potions magiques, des choses comme ça. Ben, il y a une légende aussi qui vient du folklore irlandais, qui raconte que découvrir un trèfle à quatre feuilles, ça permet d'accéder au chaudron d'or des leprechauns, les barbadais.
Hey, c'est une légende qui est tellement vivante ou tellement bien enracinée qu'on retrouve même cette représentation-là sur des boîtes de céréales. Là, c'est pour te dire.
Ben oui, Lucky Charm.
Les Lucky Charms.
Et puis, en trouver, ça signifierait qu'on est sur la bonne piste, que le chaudron est tout prêt. Hein, lorsqu'on trouve le trèfle à quatre feuilles.
Okay.
Oui. Il y a une tradition aussi qui dit que chaque feuille représente une vertu. On aurait l'espoir, la foi, l'amour et la chance. Donc, ça serait pas juste la chance, le trèfle à quatre feuilles, mais c'est un porte-bonheur. Puis en le portant sur soi, on s'attirerait les pouvoirs qui correspondent à chaque feuille. Donc, autant l'espoir, la foi, l'amour et la chance. Mais pour l'amour, il y a une affaire. En le glissant dans la poche de l'être aimé, le trèfle à quatre feuilles, là, on dit que vous pourriez l'attacher, l'être aimé, pour l'éternité.
Ben,
là, ça me fait penser à de la magie noire.
La magie rouge ou de la magie noire, hein, c'est
ouais,
ça.
Oui, c'est ça, là. C'est pas correct faire ça. Là. On peut pas attacher quelqu'un pour l'éternité.
Ben, quelque part, si la personne est consent à cette relation-là,
oui.
Ouais, c'est peut-être un peu forcer la chance dans une certaine mesure en mettant une espèce de porte-bonheur dans sa poche. Là,
ben, je pense que oui. Je pense que ça peut se faire en toute connaissance de cause, là, se placer la petite feuille. Mais en effet, dans ce sens-là, là, ça ne devient pas un problème de magie noire.
Ouais.
C'est ça, c'est pour faire une référence. Si des gens se demandent pourquoi vous écouterez, l'émission peut contenir des infos qui parlent de la magie il y a quelques semaines. Donc, le trèfle à quatre feuilles, ça amènerait aussi la prospérité et la santé. Alors, c'est merveilleux comme porte-bonheur.
C'est un bon placebo.
Oui.
C'est ça, aussi. On peut y croire, tu sais, dans une certaine mesure. J'ai un 3 à 4 feuilles dans ma poche, je devrais gagner le gros lot en fin de semaine, tu sais. Je vais m'acheter un billet de 6,49. Puis, ouais,
beau lien.
C'est ça.
Et non. Sinon, on pourrait passer à un autre porte-bonheur. Ben, l'arc-en-ciel, hein, qui ne pense pas que ça y porte chance quand on voit un arc-en-ciel? C'est automatique, là. C'est et ça. Puis, ben, c'est ça, un pont entre le ciel et la terre, entre les morts et les vivants aussi, c'est considéré pour ça, par ça, pour plusieurs. C'est un ruban lumineux, l'arc-en-ciel, 7 couleurs. C'est le symbole de la paix, de l'harmonie, de l'espoir. Mais dans des textes comme dans les images aussi, depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, les arcs-en-ciel avaient 3, 4 ou 5 couleurs. Ça n'a pas toujours été 7.
Ah ouais, hein?
Ben oui, ben oui. Il y a des contes qui se basent sur la recherche d'un trésor au pied de l'arc-en-ciel, là, ça bien sûr aussi. Il y aurait des lingots d'or à l'extrémité de l'arc-en-ciel. Mais ce qui est comique de cette affaire-là, c'est, tu sais pourquoi on dit qu'il y a un trésor mais qu'on ne peut jamais le trouver? L'arc, c'est un phénomène optique. La position dépend de la position de l'observateur. Ah, donc, c'est impossible d'atteindre le pied de l'arc-en-ciel.
Okay.
De revenir en disant qu'il n'y a pas de trésor. On ne peut pas aller voir s'il y en a un.
Ça a une certaine logique là, quand on y pense. C'est
ouais, ça. C'est ça, mais on ne peut pas se rendre au pied de l'arc-en-ciel. C'est comme impossible. Quand il apparaît dans le ciel, l'arc-en-ciel nous rappelle qu'on doit garder espoir, que nos rêves sont sur le point de se réaliser souvent. C'est vraiment un porte-bonheur. C'est sûr que ça rend. Il y a le fameux, le chiffre chanceux.
Le 7.
Le 7 chanceux. Ça, là, ça vient de loin. En fait, le 7 chanceux, parce que c'est sûr qu'on a les 7 jours de la création du monde. Il y a les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique. Il y a Aristote qui distinguait 7 couleurs du noir au blanc, lui. Puis Newton s'était même efforcé de reconnaître 7 couleurs pures dans la lumière blanche qui était décomposée par le prisme, comme dans l'arc-en-ciel. Puis, pour arriver à une liste de 7, il avait ajouté indigo. Dans la position du si de la gamme musicale. C'est quand même fou, hein? Il voulait associer les couleurs à la gamme. Bon, il s'est fait un peu dire que ça n'avait pas de sens, son affaire, là, parce que, bon, pour tout ce qui est chromatique. Mais juste avant le do, il y a le si, donc ça donnait rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Les 7 couleurs qui sont présentes dans l'ésotérisme islamique aussi, et en Inde et Mésopotamie, puis elles représentent les 7 niveaux des cieux. Mais il y a toutes sortes de 7 et c'est 7 chanceux.
Je suis en train de me demander si quand on joue, par exemple, au petit xylophone pour enfants, le Fisher-Price ou les trucs du genre, je suis en train de me demander, il faudrait que je regarde si, effectivement, les couleurs ne sont pas placées comme dans l'ordre que tu viens d'énumérer, parce que chaque lamelle du xylophone jouet une couleur. Et ça doit être ça, hein, c'est ça, hein, absolument.
Oui, oui, c'est placé dans l'ordre des couleurs sur l'arc-en-ciel. Bah, ouais, ça part du rouge vers le plus violet. Puis, ça va comme ça. Et puis, un autre lien, on en a fait beaucoup aujourd'hui. Fait que tu te rappelles, on a parlé des coccinelles. Je ne sais pas si c'est la semaine passée ou la précédente. Mais savais-tu que la coccinelle est un porte-bonheur?
Oui, ça, j'avais entendu parler aussi, absolument.
Ben oui, ça apporte la chance, une coccinelle, selon les croyances, si elle se pose sur un de nos doigts. C'est là qu'on peut faire un vœu.
OK.
Ah oui.
Donc, écrasez-la pas, là.
Ben non. Fais un vœu, puis on l'écrase après pour qu'il se réalise. Non, c'est pas vrai.
Vous écrapoutissez vos chances d'avoir la concrétisation de votre souhait.
Oui, mais pour ceux qui sont superstitieux, là, sachez que si vous avez une coccinelle qui arrive sur votre doigt, vous faites un vœu, il devrait se réaliser au cours des prochaines semaines.
OK.
Ça va quand même assez vite. Là. C'est efficace, une coccinelle. Puis le nombre de points qu'elle a sur son dos, on a parlé que c'était 19 points, surtout les coccinelles qu'on a ici, asiatiques, mais qui sont au Canada.
Ouais.
Là, ça représente le nombre de mois où la chance sera au rendez-vous. Donc, on aurait 19 mois de chance ici.
Ça colle longtemps, hein?
Oui. On peut parler vite de la patte de lapin.
Il nous reste à peu près une minute, oui.
OK. Ben, porte-bonheur, la patte de lapin. Dans l'Antiquité, le lapin, c'était associé à la fertilité, enthousiasme, sexualité, puis c'est sûr, hein, c'est sa capacité à se reproduire, là.
Ben.
Un petit animal très prolifique, avec 5 portées par an, là, qui peuvent compter chacune jusqu'à 12 petits. Ça fait des petits. On a calculé la descendance théorique d'un seul couple de lapins. Ça pourrait atteindre 1848 individus première génération.
Wow!
Ouais. Donc, 24 lapins de Garenne qui auraient été introduits en 1874 auraient suffi à submerger l'Australie, qui en a jusqu'à 30 millions. On en a amené juste 24.
Wow! Au départ. OK. C'est pour dire, hein?
Alors, un dernier. Vite, le fer à cheval.
Ben oui, le fer à cheval,
okay.
Absolument.
Parce que c'est sûr que le cheval, ça reste un animal noble, là. Puis pour certains, c'est même un être sacré, mais la tradition veut que le fer à cheval, fabriqué à partir du métal, symbolise la robustesse, la puissance, la fiabilité. Et il y aurait le pouvoir magique de repousser les mauvais esprits. C'est donc pas surprenant que le fer à cheval se soit imposé comme un porte-bonheur assez puissant qui protège et repousse tous les obstacles. Le porte-bonheur fer à cheval.
Merci Sébastien. Avec ce fer à cheval, avec ce trèfle à quatre feuilles ou encore cet arc-en-ciel, on va filer vers un autre quart d'heure rempli de bonheur. Dans un instant, on va parler des jeux de société, c'est ça?
Oui.
OK, alors on revient dans un instant. Restez branchés.
Peut contenir des infos.
On entreprend notre dernier quart d'heure de Peut contenir des infos et nous allons consacrer ce bloc complet à un sujet que j'oserais presque dire universel. Est-ce que je me trompe, Sébastien? Quasiment.
Hein? Ben, universel, je ne sais pas sur les autres planètes. Non, mais je blague, je sais ce que universel veut dire ici. Mais oui, c'est connu par tout le monde, les jeux de société. Ça existe depuis très, très longtemps. Puis moi, j'aime beaucoup les jeux de table. Là. Je suis un grand fan. J'en achète, j'en consomme, je joue à ça. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis que je suis très jeune.
Alors, toi, quand tu avais un peu d'argent dans tes poches, quand tu travaillais adolescent, je ne sais pas trop, est-ce que tu étais le genre à dépenser un petit peu dans les jeux de société, tu vas me dire? Ou...
Oui, beaucoup. Ah, ouais, beaucoup hein? Même, puis j'en achetais beaucoup, puis j'achetais ça, puis des disques de musique, des disques compacts, des cassettes aussi, avant l'apparition des disques compacts. Puis jeux de société, ça faisait partie de mes choses que j'aimais. Puis encore aujourd'hui, j'en achète. Je viens d'en acheter un récemment.
Ben c'est mieux que de flamber ses payes dans les cigarettes puis les affaires comme ça, là, comme on dit. Hein?
Ben c'est certain. Jeux de société, c'est bon pour le moral. Ouais. Mais oui, les jeux de société, généralement, c'est considéré comme des jeux intellectuels. Ça fait souvent appel à la réflexion, mais ça peut faire appel au hasard, à mémoire, adresse, observation, vivacité, au bon sens aussi. Et ça, ça devient une tendance dans les années où on se trouve aujourd'hui. Mais c'est ça, depuis les années 90 même, je te dirais. C'est des jeux plus conviviaux qu'on voit apparaître, dans lesquels le but essentiel, c'est souvent de créer une bonne ambiance.
c'est ça, hein?
Ça existe beaucoup, ces jeux-là, mais ça n'existait pas au départ. C'était des jeux plus techniques. Mais des civilisations antiques pratiquaient déjà des jeux de société, certains qui avaient à l'origine une signification religieuse ou militaire. Ça nous a suivis jusqu'à aujourd'hui, surtout militaire, hein, les fameux jeux de guerre.
Bon, comme le risque, par exemple, où on déplace des troupes sur un tableau. Là.
Oui, puis ça en est un bon, ça, le risque. J'ai beaucoup joué à ça. Oui,
j'ai toujours adoré risque. Ouais.
Ça donnait le goût de jouer. Quand on jouait trop, on se tannait. Mais quand on n'avait pas joué depuis un bout de temps, on reprenait le goût de jouer à ce jeu-là, vraiment ouais. Intense. Puis là, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, fait que je pense que je suis dû pour une petite partie de risque. Mais les jeux ont voyagé entre les cultures, entre les aires culturelles, ils ont évolué aussi tout au long de l'histoire. On peut citer les plus anciens, là, vite, des jeux d'osselets et de dés, ça c'est très ancien. Les jeux égyptiens comme le Mehen, le Séné, le jeu des 20 cases, le jeu des chiens et des chacals. Ça, j'ai regardé, fait une petite recherche sur le jeu des chiens et des chacals, il y a 58 petits trous, des petits bâtons. Donc, tu as des petits bâtons chiens, des petits bâtons chacals. Puis ça ressemble un peu au crible. Donc, okay. Puis on ne sait pas les règlements, on ne les a pas trouvés. On a trouvé le jeu, mais ça, c'est trop ancien, puis on ne sait pas. Donc, ça ressemble, je ne sais pas ce qu'on faisait, mais il fallait sûrement déplacer les bâtons dans les trous jusqu'à ce qu'ils se rendent à un moment donné au bout de la ligne. Donc, quelque chose comme ça, mais ça existait il y a très longtemps en Égypte. Les jeux romains, il y a le jeu des 12 lignes, le latroncule. Il y a des jeux asiatiques comme le Go. En Indonésie, il y a le Surakarta qui se joue sur le sable avec des coquillages. Tu sais, souvent, ça prend pas grand-chose. Puis on a inventé des jeux de société de toutes sortes, des cailloux aussi. Et le 20e siècle, les jeux de société, là, sont devenus vraiment des produits édités. Hein, les jeux qu'on connaît aujourd'hui, les board games, les jeux de plateau, qu'on pourrait dire en français, avec un auteur, des fabricants, des distributeurs, de plus en plus de nouveautés, de variétés aussi. Alors, on pourrait parler d'un des plus célèbres, et je suis certain que c'est un jeu que tu as joué dans ta vie pour échanger des propriétés, acheter des choses, payer des loyers. Ben oui.
Ouais, c'est ça, le Monopoly, effectivement.
Ben oui. Monopoly, là, et ça, c'est drôle l'histoire du Monopoly, d'ailleurs, mais ça, c'est un jeu que tout le monde connaît. Puis presque tout le monde a aimé. C'est sûr que le monde a trop rajouté des règlements. Tu sais, de rajouter du cash au centre là, de l'argent puis de le ramasser, tout cet argent-là, quand tu tombes sur le stationnement gratuit. Là.
Ouais, ou la caisse commune.
Ça, c'est pas des règlements.
Ah non,
ça.
Le stationnement. Ah non, c'est pas des règlements.
Ben
ça,
non, puis après ça, le monde, il dit ça dure trop longtemps, Monopoly, je veux pas jouer. Oui, mais si vous suivez les règlements dans le livre, ça dure 1h15. Là,
ouais,
voilà.
C'est ça.
Tu peux pas ramasser 40 millions dans le centre en tombant sur le stationnement. Il est gratuit, le stationnement. Il est pas payant. Mais bon, Monopoly, il a été édité dans les années de la crise économique de 1930, ce jeu-là. Et puis, il devient l'archétype des jeux économiques, on va dire. Il y a eu tellement de dérivés. Hein? Maintenant, il y a des Monopoly de Star Wars, de Mario Bros, de n'importe quoi. Là.
Ouais, c'est ça.
Tu peux en acheter toutes sortes, mais c'est le fun.
C'est le fun, mais moi, je trouve ça limite un petit peu. Là, tu sais, je trouve
ça a dénaturé.
Donné, ben, c'est dénaturé. C'est un peu étirer la sauce, il me semble. Là. Il n'y a rien de mieux que le vrai vieux Monopoly. Tu sais, à la rigueur, qu'ils aient fait des Monopoly édition internationale, bon, avec des noms de rues, mm-hmm. de villes là, qui sont sur un continent en particulier pour que les gens aient un petit peu plus d'attachement. Ça, je peux comprendre. Quand tu es rendu dans les Monopoly Schtroumpf, on va dire, et Monopoly, ouais. Star Wars et compagnie, bon, c'est comme limite. Là,
ben pour quelqu'un comme moi qui aime faire des collections, t'sais, imagine une belle collection de jeux de Monopoly, là, que t'en as une cinquantaine.
Peut-être, j'en conviens. C'est sûr.
Mais quand même, il y a des Monopoly, même cartes de crédit aujourd'hui, hein.
On a ça comme édition à la maison chez nous. On a acheté il y a quelques années de ça une nouvelle édition de Monopoly parce que l'autre avait les coins tout rognés et tout ça. On avait perdu de l'argent. Fait qu'on a dit, on va y aller pour le Hall-in. On va acheter le Monopoly Visa, pour ne pas le nommer, puis une petite machine de transaction, puis tout le monde a son argent sur sa carte Visa. C'est spécial de même. C'est ça, c'est vrai. Là, c'est ça.
Ah oui, on est rendu là. C'est Hasbro aujourd'hui qui l'édite, le Monopoly, mais c'est vraiment un des jeux les plus connus du monde. Le jeu de Monopoly. Et partout, on lit que le Monopoly a été créé en 1935. Mais je sais pas si tu connais la vraie histoire du Monopoly. Tu l'as peut-être déjà entendu parler. Sa création date un peu plus tôt, au début du 20e siècle. Hein. C'est en 1902. Une créatrice de jeux qui s'appelle Elizabeth Magie a inventé, c'est le Monopoly, mais elle l'avait appelé The Landlord's Game. Le jeu des propriétaires. Là.
Oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Là, tu me rafraîchis la mémoire, oui.
Ben oui, puis elle l'a fait breveter. Et tout ça en 1904. Puis le concept du jeu d'Elisabeth, ben, c'était carrément le Monopoly. C'était acheter des propriétés, des chemins de fer, recevoir des loyers. On s'entend? Puis dans les deux coins, ben, il y avait une case aller en prison puis une case aller au parc. Donc, c'est vraiment tel quel. Elle a coédité le jeu à travers la société new-yorkaise Economic Game Company. Puis durant les 30 années suivantes, le jeu a gagné en popularité. Il a été découvert par Monsieur Charles Darrow. Puis lui, il a décidé de présenter une version à Parker Brothers. Et c'est donc 30 ans après sa création par Elizabeth Magie qu'une version de jeu a été éditée par Parker Brothers. C'est là que ça s'est appelé Monopoly. Puis Parker Brothers aurait racheté les droits quand même à Elizabeth de Landlord's Game,
ouais.
Pour, sais-tu la somme?
Je dirais, c'est pas grand-chose, peut-être 1000 piastres, 2000, quelque chose dans le genre.
Ouais, la moitié, 500 $.
500
Ils ont donné 500 piastres, puis ils sont devenus tellement riches avec ça.
C'est incroyable.
C'est fou comment les gens ont profité de ça, les droits d'auteur. Quoique même, ça serait un sujet, ça, pour peu contenir des infos. Ben, je t'arriverai avec le sujet des brevets.
Ouais, mais tu sais, en même temps, là, si la personne est assez, on va dire, naïve ou va pas chercher des conseils auprès de, je sais pas moi, un avocat ou encore un conseiller juridique pour la coacher un petit peu dans une transaction comme celle-là, tu sais, quelqu'un t'offre 500$, puis tu l'acceptes, c'est ce que tu veux qu'on fasse.
Ouais, surtout, mais c'est de l'ignorance, je pense, un peu du système et comment ça fonctionne. Les gens savaient pas à quel point ils pouvaient devenir millionnaires, milliardaires.
500$, pense à ça.
Ouais, ouais. Fait que même l'histoire du Monopoly, si on regarde sur le site, ça commence en 1935. Puis elle n'est même pas citée, Elizabeth. Puis il y a le nom de Charles Darrow, par exemple, qui figure, celui qui est allé le présenter à Parker Brothers. C'est quand même spécial, hein. Donc, voilà pour le Monopoly. Le Scrabble, ça, c'est vraiment le jeu de lettres là, le plus populaire, créé dans les années 50. Et il connaît son édition francophone seulement en 1955. Mais ça fait un bout que ça existe, le Scrabble. Et lui aussi, c'est le leader des jeux dans son domaine, dans ce qui est domaine de jeux de lettres.
Et c'est important, si vous avez une version anglaise, de jouer en anglais, dans une certaine mesure. Et si vous avez la version française, de jouer en français, parce que le nombre de lettres dans une version ou dans l'autre n'est pas forcément le même.
Oui, les points aussi sur les lettres, hein, c'est ça?
Exactement.
C'est
parce
pas aussi payant, oui.
C'est ça, parce que les mots anglais et les mots français n'ont pas nécessairement le même nombre de consonnes ou de voyelles les uns dans les autres. Les mots sont peut-être plus longs dans une langue ou plus courts dans l'autre et tout ça. Si bien que si vous jouez au Monopoly en français avec une planche de Scrabble, devrais-je dire, si vous jouez en français avec un jeu anglophone, vous risquez un peu de fausser la donne dans les résultats. Là.
Exact. On ne saura pas si vous êtes bon au Scrabble pour vrai.
C'est ça.
Hey, puis j'aime beaucoup, moi, les petits jeux de cartes. Ça compte comme des jeux de société, mais tu sais, on connaît les Uno de ce monde, les Mille Bornes. Tu sais, Mille Bornes, ça, tout le monde a déjà joué. Hein, ça a été créé en France. En 1954, c'est un des premiers jeux de cartes spécifiques modernes. Et La Conquête du Monde, 1957, ça, c'est un jeu français. C'est ça qui est l'ancêtre de Risk.
OK.
Ouais, ça s'appelait La Conquête du Monde.
Alors, c'est pas Risk et pas la version originale. C'est ce jeu-là français, La Conquête du Monde, qui l'a précédé. OK.
Exact. Puis, ça a ouvert la voie aux jeux de simulation guerrière, là, ces jeux-là. Il y a le jeu Diplomatie qui est sorti en 1959, qui est une carte de l'Europe de 1914 divisée en zones. Puis là, chaque joueur contrôle des armées. Puis l'intérêt du jeu, c'est de faire des discussions entre les joueurs pour faire des alliances. Il y a des mensonges, des trahisons. Donc, le jeu Diplomatie, il y a des fédérations, des championnats de ça nationaux, internationaux. Il y a des compétitions sur Internet, des théoriciens, des revues spécialisées qui en parlent. Donc, ça, c'est vraiment un gros jeu, le jeu Diplomatie. Puis moi, j'y ai jamais joué, mais j'ai découvert ça dans mes recherches. Puis là, ça m'intéresse de l'essayer.
Okay.
diplomatie. Donjons et Dragons, ça, c'est un autre genre. Je sais pas si tu connais les jeux de table avec un maître de jeu.
Oui, oui, ben je connais. J'ai jamais vraiment joué, mais je connais le principe, ouais.
Ça, j'ai joué à ça parce que j'ai déjà travaillé en maison de jeunes, puis ça est devenu une super activité, ça, faire ça avec les jeunes. J'ai devenu maître de jeu de Donjons et Dragons pour m'amuser avec les jeunes une fois par semaine. Okay. Puis ça existe depuis 1974, Donjons et Dragons. C'est devenu, c'est ça, l'occasion de créer des aventures imaginaires. Sans support matériel vraiment à part du papier. Là, ça se passe dans notre tête. Le maître de jeu nous raconte un peu où ce qu'on est. On fait des choix, des choses. Alors, quelques dés, crayons et le tour est joué. Mais ça prend des bons livres pour le maître de jeu, là, pour qu'il sache où ce qu'il s'en va, lui.
Ça me fait penser, dans une certaine mesure, au livre dont vous êtes les héros qu'on jouait à une certaine époque, non? C'est un peu ça, hein?
Ben pas vraiment. Un livre dont vous êtes le héros, c'est que moi, j'adorais ça, soit dit en passant, puis je considère quasiment ça comme un jeu de société. Là.
Oui, presque.
On a des choix, puis ça nous dirige vers la page où on va, puis on fait des petits combats, puis tout ça. Ouais. Mais un donjon et dragon, c'est vraiment, oui, tu fais des choix, mais c'est le maître de jeu, il te fait te battre contre des créatures, des choses comme ça. Puis t'interagis avec les autres joueurs aussi autour de la table. Tu peux être en équipe, te promener. Donc, c'est un peu différent.
C'est
mais oui,
ça mais peut c'est un concept c'est un concept qui s'apparente, mais qui a la différence au sens où on joue à plusieurs. Là. C'est vrai que tu as raison qu'un livre dont vous êtes le héros, c'est vraiment quelque chose qui est très,
très
personnel.
Solitaire, là,
c'est très solitaire, oui, absolument.
Puis moi, j'avais le goût de jouer avec des amis à ça. Je lisais des livres dans Vous êtes le héros, j'avais le goût qu'on le lise à deux.
Ouais.
Ouais. Mais les premiers jeux de convivialité sont sortis là, après Trivial Pursuit, il y a eu le Pictionary. Et puis, dans les jeux de cartes, ils ont sorti une affaire Magic. 1993, le premier jeu de cartes à collectionner basé sur un univers médiéval fantastique. Et ça a même dépassé les ventes de cartes de hockey, que moi, j'aimais beaucoup. Ma sœur, je vais dans des magasins de cartes de hockey, puis ils vendent la moitié du magasin, c'est des cartes Magic.
Ouais.
C'est ça, puis il y a divers jeux de cartes qui sont apparus issus des jeux de rôle, des dessins animés, du cinéma. Des jeux de cartes proposent plein de sortes de duels stratégiques. Il y a des parts de hasard là-dedans. Il y a des jeux rapides et interactifs comme les loups-garous là, de Tiercelieu. Ça, c'est le fun. C'est un très bon jeu de société. Si vous ne l'avez pas essayé, ça coûte pas cher. C'est un petit paquet de cartes. Ça se joue en gang. C'est vraiment amusant. Puis, une compagnie que je conseille aussi, le Days of Wonder, qui ont sorti tellement de bons jeux de société dans les dernières années, le Chevalier de la Table Ronde. Ça, comme certains jeux, ça en est un qui se joue coopératif. Donc, tout le monde est dans la même équipe. Mais il peut y avoir un traître parmi nous, il faudrait le démasquer. Je sais que mon filleul aussi a eu un jeu d'Harry Potter qui est dans le même style que les Chevaliers de la Table Ronde, donc coopératif comme ça. Tout le monde est dans la même équipe, on se bat contre le jeu, puis on essaie de gagner. Et très amusant, les gens y accrochent tout de suite.
Espérons que ça va vous donner le goût de filer chez votre magasin de jeux et de jouets préféré, pas très loin de chez vous, puis d'aller vous chercher des jeux de société, parce que c'est tellement rassembleur à part de ça, hein, les jeux de société.
Vraiment.
Quand on a la valeur de la famille à cœur, il me semble que se rassembler avec les enfants sur la table de cuisine puis jouer à un jeu de société.
Ça fait différent des écrans, là.
Ben oui, c'est différent des écrans, certains, absolument. C'est la fin de l'émission peut contenir des infos de cette semaine. On vous avait dit que ça allait être un rendez-vous encore très chargé. Ça l'a été, puis on prévoit un autre rendez-vous tout aussi chargé, tout aussi informatif la semaine prochaine?
Absolument, puis je vous annonce déjà que je vais faire de la recherche sur les brevets. Je me suis dit, on va faire ça, on va faire le tour parce que ça m'intrigue. Après avoir parlé du Monopoly, j'ai le goût d'en trouver d'autres, des brevets bizarres.
Parfait, c'est intéressant. On sera là la semaine prochaine. Merci, portez-vous bien, puis prochain rendez-vous la semaine prochaine. Bye-bye, Sébastien.
Salut.